Vous écoutez RTL.
Il est 11h03 sur RTL, à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Absolument, bonjour Alexandre de Saint-Aignan. On vous retrouve naturellement à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure, mais c'est l'heure d'à la bonne heure avec Thomas VDB et Mathieu Madénian. Voilà.
Bonjour.
C'est le gang des barbus qui a encore frappé.
Eh ouais.
J'ai l'impression que pour être un bon humoriste, maintenant, il faut être barbu.
Ouais. Ah oui.
Regardez Régis Maillot.
Ouais, ouais,
mais c'est quoi, les trois plus drôles.
Ça veut dire quoi, Thomas Videberne?
Ah oui, c'est vrai, VDB, c'est Videberne.
Non, c'est tout ça. C'est vrai, ça pourrait être Videberne. C'est Vandenberg, tout simplement. Mais c'est vrai que les gens ont du mal à l'articuler en général.
On a une pastille deux fois par semaine où je me moque de Stéphane
VDB. Ah, mais c'est vrai, j'ai vu ça, VDB. Ça fait deux ans que je vais lui hashtag VDB qui
passe. Vous parlez de moi, non, on parle de Stéphane.
Et c'est la ville de Berne. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est dommage, sinon on aurait.
Bien, un peu de silence, s'il vous plaît.
Oui,
aujourd'hui,
madame.
Je suis entouré de celles qui continuent à faire passer des messages. Le message de la mauvaise humeur en particulier. Joël Goron.
Bonjour tout le monde.
Il est imbattable sur l'actu, c'est l'interro Maillot. Bonjour,
oui, oui, bonjour à tous. Un petit quiz sur l'actu aujourd'hui, on va voir si vous avez bien révisé.
Et puis le zapping télé d'Éric Dussard.
Bonjour, bonjour à tous. Il y en a du monde au bord de la crise de nerfs sur W9, il y a vous. Et puis ceux qui vous précèdent, les princes de l'amour, ils vont pas bien non plus.
C'est pas vrai.
Ils sont très énervés.
C'est pas vrai.
Oh là là.
Et puis le test musical de Patrice Carr. Bonjour.
Bonjour Patrice.
Quel est le thème?
Les duos de garçons.
Les duos de garçons.
Ah oui,
Ah, c'est pas mal. En chanson.
En chanson.
Oui, en chanson.
Ouais, c'est bizarre.
Oui, c'est un
la phrase.
Quiz musical.
Oui. Précise, hein, précise.
Et il y a un très beau cadeau à la clé. Semaine de ski pour 4 personnes à Orcières-Merlette, 1850, grâce au club Bélandra Le Roc Blanc. Et on vous offre également la location des skis, ça c'est cher. Et les remontées mécaniques.
Et une fondue savoyarde aussi, non
Stéphane.
Mais quand vous dites on vous offre, c'est vraiment, c'est déjà à nous, on a déjà gagné.
Non, vous allez faire gagner vous.
Il faut jouer.
Nous on joue et on fait gagner des auditeurs.
Alors c'est Bélandra, parce que Bélandra c'est encore autre chose.
Bélandra, oui.
On vous a entendu dire Bélandra, mais c'est.
Non, Bélandra.
D'un drap.
On est un peu en rebais. Voilà. Je vous présente nos invités. Ce n'est pas tant parce qu'aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de la radio que nous les avons conviés à notre table, mais plutôt parce qu'en ce mardi gras, jour de tous les excès à la fois alimentaires et vestimentaires, ils correspondent assez bien à l'esprit de carnaval. Ce qui tombe assez bien en parlant de ce qui est carné, c'est que ce sont des viandards qui nous vengent de ceux qui nous terrorisent au quotidien. Quand ils ont un os à ronger, ils ne lâchent pas pour le meilleur et pour le rire. Deux mois après la fin de leur folle aventure des messages d'actualité sur W9, ce duo d'humour a repris la plume pour nous offrir 3 minutes de bonheur quotidien, douche non comprise, pendant lesquelles ces deux garçons au bord de la crise de nerfs se saisissent de tout ce qui nous insupporte dans notre vie quotidienne, dans un exercice exutoire fort réjouissant. Rejoints par des guests de renom, ils font de cette pastille un formidable médicament contre les importuns, un calmant pour nos énervements et un précieux remède contre ceux qui font de notre vie un enfer, tant il est vrai que le diable se cache dans les petites choses de la vie quotidienne. Avec nous ce matin, Thomas VDB et Mathieu Madénian.
Waouh!
Très bien écrit, hein.
Oui, je vous remercie.
Ah ouais. c'était en alexandrin.
Mais oui,
c'était limite, on était au bout
tous les jours.
Il a tout donné.
Je dois avoir quelque chose.
Victor Hugo, c'est oui. Victor Hugo.
Oh, faut pas exagérer.
C'est un recueil.
Non, faut pas exagérer. Non, il avait beaucoup baissé à la fin.
Victor Hugo, oui, alors, vieux.
Alors, non, sérieusement. Épurons le passé. Votre duo était assez mal embarqué, puisqu'à peine quelques numéros France 2, vous les avez commandés, hein, et puis vous avez viré. C'est ainsi que vous avez rebondi sur W9 pour vos messages, et puis depuis hier, eh bien, au bord de la crise de nerfs. Avec le recul, est-ce que vous diriez que cette décision de France Télévisions, qui à ce moment-là a dû être très difficile à vivre, s'est finalement révélée comme une chance?
Elle a été difficile à vivre, mais l'alcool aidant, pas longtemps.
Hein. Parce que même le soir même, on a mis une vidéo où
on a appris qu'on était évincé de France 2 un lundi à 19h40, c'est-à-dire 1h10 avant la diffusion du premier sketch. Donc on était déjà en train d'appeler toute notre famille. Allume la télé dans 1h10, hein, parce qu'on disait à
tous les armées de France.
Et puis donc on a appris qu'on était annulé. Donc grosse déconvenue. Mathieu vient chez moi et puis on célèbre cette annulation comme il se doit. Et puis dès le lendemain, effectivement, le groupe M6 nous appelait en nous tendant une perche en disant ben nous, on veut bien que vous veniez sur W9. Et deux semaines après, donc ça s'est fait quand même très très vite.
Ouais,
on s'est retrouvé à l'antenne sur W9. Donc on n'a pas eu le temps de.
Vous n'avez pas eu le temps de.
Non.
Ouais. Là, on est encore bourré.
Parfois, ça se sent quand on va jouer, ça se voit. À l'image. Alors, on va vous retrouver dans un instant. C'est une interview, lequel des deux ?
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes avec Mathieu Madénian et Thomas VDB. Lequel des deux ? Lequel des deux est le plus fan de l'autre ?
Je pense que je suis plus fan de Tom que lui de moi.
Non, mais vraiment.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je suis fan de Thomas VDB.
Et il se trompe parce que moi je suis fan de ses spectacles et je suis fan de nous deux aussi. Ça, c'est vrai que j'avoue. Mais c'est vrai qu'on est très fan. On devrait un peu avoir honte de le dire comme ça, mais c'est vrai que on est assez fan.
Quand on faisait nos messages, les premiers spectateurs, c'était nous. On faisait ça. On pensait pas aux gens qui regardaient vraiment. On se disait, moi je regarde encore les bêtisiers, juste pour me dire, tiens, j'ai l'impression de regarder un album de vacances et me dire, tiens, je tague mon pote. Ah oui, on a fait ça, mais tu vois, c'était c'est très égocentrique de dire ça, mais c'est pas du tout le fond du truc. C'était juste qu'on a, on passe des moments, c'est les vacances, quoi. Vraiment, on se marre beaucoup.
Est-ce qu'il y en a un qui. Oui, Joël, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais savoir si vos femmes étaient copines. Parce que ça doit être assez insupportable,
elles
non
pas dans moment, Elles sont parties.
Vous écoutez, on est contrat tout à l'heure.
Le problème, c'est que la mienne ne connaît pas toutes celles de Mathieu.
facile.
Lequel des deux est le plus sûr de lui et lequel des deux doute le plus de lui ?
Le plus sûr de lui, je peux pas dire que ce soit une qualité qu'on ait vraiment ni l'un ni l'autre. Par contre, dans le doute, je pense que c'est peut-être toi quand même qui est assez, en tout cas dans le stress. Oui. Ça, dans la capacité à mettre le stress.
Plus stressé. Je
suis assez stressé.
Et lequel des deux est le plus accro à la notoriété?
Oh, Mathieu, excuse-moi, mais c'est pas moi.
Hein. C'est moi, tu trouves?
Non, mais c'est bien.
Attends, faut le faire, c'est regardé par 3 millions de gens.
Écoute-le, lui. Il m'appelle, il me fait, regarde, on a été retweeté 14 fois. Arrête tes conneries, t'es pareil que moi. Attends, on lance, il me balance ça. Quel enfoiré.
Et voilà. Vous savez, ils étaient amis.
Il est bien, cette interview.
En principe,
lequel des deux est le plus rock'n'roll?
Tom,
si on veut.
Lequel des deux a l'accent le plus gênant?
Alors attends, je suis désolé, tu vois ce qu'on fait, c'est lui.
Oui, alors c'est vrai que.
Vous avez une voix bizarre dans.
À l'origine, c'est vrai que le personnage que j'incarne dans le duo est passé un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau de la voix.
C'est-à-dire qu'au
début, c'était très très enfantin, c'était un peu comme ça et tout. À un moment, c'est devenu, mais alors carrément hystérique. Et là, je suis redevenu dans quelque chose. Mais c'est pas vraiment un accent, c'est plutôt une voix. Un truc dans le larynx qui est un peu contracté.
Je pense que c'est plutôt une déficience mentale. On a
un peu un côté comme ça. Oui. Et enfin, lequel des deux est le plus énervé par les petites contraintes de la vie et les importuns qui nous pourrissent le quotidien?
Alors, clairement, c'est toi, Matt.
Mais tu rigoles ou quoi? T'es en train de râler sur n'importe quoi.
Ah non, mais toi aussi. Mais Matt, moi, par contre, Mathieu a cette capacité à me faire hurler de rire. Si je le croise dès le matin, c'est là qu'il est le plus drôle, parce que c'est là qu'il est plus énervé après tout. Et l'entendre pester sur le fait qu'un croissant est un peu rassis ou n'importe quoi, c'est un bonheur de tous les jours.
L'énervement est un bon moteur pour se marrer, mais c'est vrai que je pars vite sur n'importe quoi.
Non, mais c'est ça qui est formidable. Et puis surtout, vous allez nous venger avec vos pastilles. Voilà, au bord de la crise de nerfs. On va se retrouver dans un court instant, justement, pour parler de ces petites pastilles de 3 minutes qu'on voit sur W9. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Thomas VDB et Mathieu Madénian. Alors justement, vous êtes arrivé en mars dernier sur W9 avec le programme court Message, qui a rencontré un vrai succès, on peut le dire, et des pointes à 1,2 million. C'était des petites pastilles tournées dans le même décor. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à abandonner ce programme court qui marchait très fort? C'était la peur de tourner en rond parce que vous aviez tout dit?
C'est Tom qui au départ voulait finir. Enfin, en fait, c'est pas le fait. Quand on a commencé, en fait, ces messages, c'était en pleine actualité politique. Il y avait la présidentielle. Donc on a eu une actualité incroyable. Et c'est vrai qu'on s'est dit peut-être que l'actualité va être moins forte et on va se répéter, on va être redondant. Et c'est pas la peur d'être redondant. Et puis c'était aussi le fait de casser le côté. Tiens, on se met devant une caméra, on parle, et de jouer un peu plus la comédie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retourner à nos messages si un jour ça nous dit.
On s'est rendu compte que les ficelles comiques de ce qui faisait fonctionner le message étaient régulièrement les mêmes. C'est-à-dire Mathieu qui essaie de tenir un propos et moi qui ne comprends rien à côté. Ouais. Et donc ça reposait un peu toujours sur le même fonctionnement. Mmh. Alors on a réussi à en faire des super avec ça. Mais effectivement, une fois qu'il y a eu l'élection du président Macron l'année dernière.
C'est Macron qui a gagné.
C'est vrai que c'est Macron qui a gagné, je me rappelle.
Malgré tout ce que vous avez dit sur lui.
Malgré tout ce qu'on a fait sur lui et sur tout le monde. On s'est rendu compte qu'effectivement, pendant la course à la présidentielle, toutes les semaines, on est qu'à se baisser pour faire des blagues sur Le Pen, sur Cheminade, sur n'importe quoi.
Cela dit, là, on regarde, il y a BFM qui est branché, on se dit, on aurait de quoi encore discuter, pas mal de trucs.
Mais là, en même temps, ce qui est très concernant, comme on dit pour nous tous, c'est que vous attaquez à ce qui nous pourrit la vie, en fait.
On a choisi cet angle-là qui est moins basé sur l'actu et plus généraliste et moins démodable, en fait. Parce que c'est vrai que maintenant, tu regardes nos pastilles d'il y a un an, tu te dis, ah ouais, d'accord.
Okay. Ça se démode.
Alors, on a
la bande-annonce, je crois.
On n'a pas la bande-annonce. On a le testament de Johnny Hallyday qu'on va lire.
Sur les femmes, justement. Enfin, vos rapports avec vos femmes. Voilà.
T'es toujours avec ta copine, toi ?
Non, on s'est séparés. C'était devenu un peu compliqué à cause de la distance.
La distance ?
Bah oui, tu sais, j'avais plus le droit de m'approcher d'elle à moins de 200 mètres, donc c'était un peu galère.
Et Sophie, pourquoi tu l'as quittée ?
Sophie, elle voulait tout le temps faire l'amour.
Et ?
Bah, elle s'était pas avec moi, donc j'ai fini par me lasser à un moment. Et toi, Sandrine, t'en es où ?
Bah écoute, tout allait bien, on s'aimait, on faisait des projets.
Et un jour, elle a dit malgré que. Ah oui, donc fini, quoi.
T'as envie de te faire un compte ? T'es bien avec quelqu'un, tu veux construire, tu te dis, et la meuf, elle te sort malgré que. Incroyable. Incroyable.
Mais c'est juste, c'est vrai.
C'est insupportable.
C'est comme les chaussettes au lit, quoi, c'est à la fin.
C'est ça.
Exactement. Il y a des trucs
c'est rédhibitoire. Surtout quand c'est pas les tiennes. Ça, c'est encore plus insupportable.
C'est un tue-l'amour. Alors, ça, c'est le premier. On va écouter trois extraits. Mais est-ce que vous êtes inspiré, je crois, Mathieu, aussi de votre livre « Allez tous vous faire... »
Ouais, c'est vrai. J'ai fait ce livre avec les personnes qui produisent également la série, Stéphane Ribeiro et Christelle Parlanti. Et on s'était dit, tiens, en faisant ce livre-là, c'était peut-être facile de le mettre en série, donc on avait fait un pilote, et puis on a vu que ça marchait bien, donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas développer le truc.
Et les téléspectateurs peuvent maintenant vous proposer des idées, parce que c'est vrai qu'il y a tous les jours des choses qui nous énervent.
On devrait faire une application là-dessus, sur ce livre-là.
Et il y a plein de guests, alors j'ai vu qu'il y avait Michel Simès, François-Xavier de Maison, Gérard Jugnot, Arnaud Ducré, Frédéric Bell, Soren Prévost.
À la base, c'était des potes, mais ils n'ont pas accepté parce qu'ils nous aimaient bien. Et on leur a donné des textes. Oui. Et on leur a dit, si vous trouvez ça marrant et si vous vous sentez d'amener quelque chose de bien, nous, ça nous ferait très plaisir. Et donc, ça s'est fait comme ça, en fait.
C'est aussi ça qui fait qu'on a voulu mettre le message derrière nous pour passer à quelque chose qui nous faisait interagir avec d'autres comédiens et puis avec d'autres personnages, parce que c'est vrai que le message c'était toujours nous deux face à la caméra en train d'interagir tous les deux avec la caméra. On voulait étendre ça à quelque chose qui ressemble plus à de la fiction.
Et puis c'est vrai que vous êtes des comédiens, vous êtes tous les deux sur scène, on en parlera tout à l'heure. Vous avez envie aussi d'être... Alors on a un deuxième extrait, c'est les expressions à l'appel.
D'abord, il y a ceux qui prononcent mal les mots.
C'est génial. Regarde, la France a été 6 fois championne du monde de handball.
Handball, c'est de l'allemand. On dit handball.
Ah, un rébus. J'adore ça.
C'est rébus qu'on dit.
Bah, arrête de manger ça. Tu vas choper un infarctus.
Infarctus.
Il y a ceux qui font des fautes de français.
Franchement, je sais pas c'est qui a pensé ça, mais c'est magnifique.
À la rigueur, je ne sais pas qui est-ce qui a peint ça, mais normalement, c'est je ne sais pas qui a peint ça.
Ah non, mais quand je l'ai vu, j'ai halluciné, quoi. Franchement, je pouvais pas imaginer. Et franchement, si j'aurais su...
C'est bien parce que vous êtes juste après les princes de l'amour. C'est assez raccord en fait.
On pourrait aller faire un tour avec une pelle sur la piscine.
Leurs spectateurs vont pas comprendre vos vannes.
Boum, tu détruis tout.
C'est vous tournez comment alors? Parce que c'est tourné dans des décors
Change. Là, pour le coup, c'est une vraie production parce que les messages étaient chez moi, donc c'était mon canapé, tout, c'est la même équipe, on petit déjeunait ensemble. On, là, par contre, c'est vraiment une vraie équipe de production. Donc il y a des lieux, il y a des PAT,
il y a des moyens.
On change de lieu de tournage.
On finit tard et on est fatigué.
On travaille.
Ouais,
ça s'appelle du travail.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Mathieu Madénian et Thomas VDB. Voici le Joël et Goron. Joël Goron.
À la nuit, les humeurs de Joël Goron.
Bon, vous m'accusez toujours de trouver tout. Je dis toujours, c'était mieux avant. Oui. C'est pas vrai. Il y a des trucs que je trouve que c'est bien aujourd'hui. Alors vous moi, je me suis dit, je vais leur donner des exemples. Qu'est-ce que tu dis, toi ?
Je dis, vous êtes ravissante.
Vous allez vous en prendre une.
C'était mieux avant ?
Non, vous êtes ravissante.
Alors, prenons l'exemple, par exemple, aujourd'hui, de ce qu'il y a dans l'air du temps. Avant, quand c'était l'hiver, comme en ce moment, et qu'il neigeait, on trouvait ça normal. C'était logique. Mm-hmm. C'est l'hiver, il neige. Aujourd'hui, s'il neige et qu'on a froid aux pieds quand on sort de chez soi, c'est la faute à la météo ou au dérèglement climatique, voire à Macron. Voilà, c'est
comme Donald Trump.
Avant, on ne souhaitait pas la Saint-Valentin, mais on restait en couple 60 ans. Aujourd'hui, à la Saint-Valentin, c'est tête-à-tête obligatoire au resto avec portable à côté de la fourchette et on se sépare 3 ans plus tard avec un moment plus. C'est comme ça. Vous préférez quand ? Avant ou aujourd'hui ?
On préfère maintenant. Là, c'est
un bon moment. Sans le repas.
Toujours à propos d'amour, genre Saint-Valentin. Avant, dans les surprises parties, c'est des jeunes qui m'ont expliqué ça. Pour draguer, il y avait le slow. Ouais. Aujourd'hui, il paraît que le slow n'est plus pratiqué, sous peine de ringardise. Résultat, les timides sont bien embêtés.
Il y a le GHB quand même.
Avant, on croisait.
Oh non, on peut pas rire.
Il y avait le quart d'heure américain avant.
Ouais.
Ça c'est bien.
Avant, quand on croisait un type dans le métro qui vous aurait bien plu, c'était bien. Mais il redescendait sur le quai avant de vous avoir demandé votre 06. Aujourd'hui, il y a une appli pour le retrouver s'il n'est pas manchot, lui non plus. Ça s'appelle croisedanslemétro.com. Tapez sur votre appli, vous tapez téléphone. Toi, le type aux yeux verts dans le deuxième wagon sur la ligne Vincennes-Neuilly à 8h12 ce mardi, tu me plaisais bien. Et si il n'est pas trop con, lui aussi, il a l'appli et vous allez vous retrouver.
Ça va être bien pour faire entrer l'accusé, ça. Oh là là, ça va faire du client.
Ça, c'est pas mal. Il faut la même chose avec les pickpockets. Dis-moi, toi, qui m'a piqué mon portefeuille.
Moi, je trouve que c'est bien, ça. Avant, au JO d'hiver,
croise dans le métro.
Comment ça s'appelle ?
Oui, je veux bien.
Ça s'appelle croisedanslemétro.com.
D'accord.
Tu vas essayer ?
Bah, évidemment, ouais.
Avant, au JO d'hiver, suffisait qu'il y ait une piste en forme de pente, quelques piquets, un peu de neige et un skieur qui arrivait le premier en bas, très très vite, et c'était super. Aujourd'hui, il y a la descente des bosses, la cross-ski, le ski-ballet, le snowboard et Kim Jong-un.
On le descend pas.
Beaucoup de gens aimeraient le descendre, mais
voilà.
Mais c'est pas dommage.
Avant, on décrochait éventuellement le bac. Aujourd'hui, on sait même pas si au mois de juin, s'il va y en avoir un en vente quelque part. Avant, les femmes étaient battues. Aujourd'hui, elles sont toujours battues, mais elles demandent à ce que ça s'arrête.
Et oui, bah c'est mieux.
Vous voyez, il y a du progrès.
Ça vous choque, ça.
Et pour finir, pour vous démontrer que j'aime bien la modernité, avant, quand on allait à l'église, on pouvait refourguer des boutons de braguette dans la corbeille moment de la quête.
Ah, maintenant, on peut pas.
Alors qu'aujourd'hui, les paroissiens peuvent s'acquitter de leur offrande grâce à un panier connecté avec leur carte bancaire. Ouais. Et vous trouvez que je suis pas moderne ?
Ouais, c'est vrai. Hein ? C'est quoi cette histoire de boutons de braguette ?
Juste que parfois ils se montrent un peu plus généreux parce que.
Mais les boutons de braguette, ça veut dire que tout le monde avait donc ensuite le pantalon sur les genoux dans les églises ?
Non. D'autres boutons. Tu sors ta carte bleue et tu payes à l'église.
Oui, bien sûr.
Vous avez déjà vu ça ?
Oui, vous pouvez mettre ces 5, 10,
oui, c'est du sans contact.
Oui, sans contact, c'est sans contact.
Oui, c'est mieux du sans contact à l'église.
Ce qui est bien à l'église. Ça s'appelle le geste de paix.
Le geste de prêt, oui, exactement. Oui.
Merci beaucoup, Joël. C'est bien.
Vous voyez que je ne suis pas si.
Non,
très
vous
trop
n'êtes pas si passéiste que
non,
ça.
Non, pas du tout.
Oui, on va se retrouver dans un instant pour le vrai faux de nos invités.
Vous écoutez RTL.
Le vrai faux de l'invité.
Alors, on s'est attaché, Patrice et moi, à reprendre les dossiers de Thomas et de Mathieu.
Moi, je m'intéresse au cas de Mathieu. Mathieu a pris son premier bide sur scène assez tôt. Il avait une dizaine d'années, il s'était collé une moustache, il racontait des blagues de Toto dans la salle, et il n'y avait que ses parents qui riaient. C'est vrai ou c'est faux?
Bah, c'est mignon, c'est un spectacle de fin d'année ou un truc comme ça?
Ouais, c'est vrai, c'était à Saint-Gaudéric, c'était au centre aéré, et ils ont filmé ce truc-là. Non, je me rappellerai tout.
Il y a des images.
Mais j'étais tellement fier, je me suis dit, oh, c'est un carton et tout. Et il n'y a pas longtemps, mon père a remis les trucs sur l'ordinateur et disque dur, des vieux films, et j'ai revu ça. Et je me voyais, et je voyais les gens mais d'une tristesse en train de me regarder, et mes parents qui rigolaient. Et là, je me suis dit, c'est ça, aimer son fils, en fait. C'est-à-dire que génial, même moi, j'étais là, il faut brûler ce truc-là, c'est pas possible. Et je racontais des blagues de Toto avec une moustache. Ça n'avait aucun sens. Et je voyais tous les parents me regarder en se disant, heureusement, c'est pas le nôtre. Il y avait ce truc-là. Et je voyais mes parents se marrer, et je me suis dit, oh là là, ils m'aiment, c'était pas mal.
Ouais, c'est beau.
Quel bide.
Pourquoi
quel
une
bide.
Moustache, c'était qui votre alors,
mais
modèle.
Aucun sens. Sur scène, on va faire une
moustache.
C'est très drôle, la moustache. Pathétique.
Et ils auraient pu vous dire de ne jamais penser à ce métier-là, vous voyez.
Ils m'ont encouragé en plus après ça. Bravo.
Alors, vous savez que Thomas est un fou de musique, enfin, qu'il était journaliste de rock. Et donc, il y a eu quand même un drame dans sa vie, c'est qu'il possédait plus de 10 000 vinyles. Et dans un déménagement, il s'est dit, bon, les vinyles, on en passera
fini,
plus.
C'est fini, bien sûr.
Ah, il les a tous donnés. Et donc, il a donné ce qui doit valoir aujourd'hui une fortune.
Ah, c'est crédible, ça.
Non, oui, très crédible.
Je dirais faux. Ouais. Vrai.
Alors, c'est pas complètement vrai, c'est pas la réalité exacte, c'est les CD. Ouais, en fait, les CD, c'est qu'en fait, j'ai décidé de garder mes CD. La vraie blague, la vraie ironie du truc, c'est qu'il y a une dizaine d'années, j'ai toujours des milliers de CD, et à un moment, avant l'arrivée du streaming, je m'étais mis en tête de digitaliser tous mes CD pour les mettre sur des disques durs. Et c'est vraiment la semaine où il me restait une vingtaine de CD à digitaliser. Donc, j'ai passé des mois à digitaliser, vraiment à perdre du temps de vie, on peut le dire directement, que je suis allé sur Internet et que j'ai lu un article sur l'arrivée vraiment imminente de Deezer et Spotify. J'aurais bien aimé qu'ils me le disent un tout petit peu avant. J'ai l'impression d'être un chauffeur de taxi qui a acheté sa plaque la semaine du lancement de Uber. Quand il allait me battre à Roissy.
C'était juste pour vous emmerder.
T'as des disques durs, à quoi ça va en faire du coup.
Ah bah ça prend moins de place, mais bon, voilà, mais j'en ai beaucoup.
Ouais. Mathieu a une date fétiche dans sa vie, c'est le 23 juillet. D'abord parce que c'est la date d'anniversaire, mais aussi parce que tous les grands événements de sa vie se sont déroulés un 23 janvier, c'est la première fois c'est la première fois qu'il a une aventure avec une jeune fille. Et donc, depuis, il aime faire des choses extraordinaires le 23 juillet.
Non, il rigole, ça a l'air faux.
Non, la première fois que j'ai fait l'amour avec une fille, c'était le jour de mon anniversaire, j'avais 17 ans.
Mais c'est pas un 23 juillet ?
C'était le 23 juillet.
C'est un cadeau qu'elle te faisait, la fille.
C'est un cadeau.
Mais vraiment,
amis, c'était cotisé.
Vous avez fait une cagnotte.
Ben oui, évidemment, et c'est vrai.
C'était vrai, bien sûr.
C'était vrai.
Non, mais c'était. Ouais, on avait 17 ans.
Est-ce qu'il y a un film aussi comme les blagues de Toto?
Il y avait mon père qui était là, il m'avait mis une moustache.
Et c'était les seuls qui riaient.
Et vous l'avez
essayé,
toi, t'entends une blague de Toto.
Oui, voilà, donc c'était.
Non, mais oui, c'était une première fois dans mon petit lit d'ado.
C'est bien le jour des anniversaires.
Ouais, je m'en souviendrai. Hein.
Bah oui.
Alors Thomas, plutôt en caractère conciliant, dès qu'il y a une dispute entre deux potes à lui, il essaye toujours de tout arranger, et ça finit parfois à le fâcher avec les deux d'ailleurs.
Oui, c'est pas grave, c'est possible.
C'est complètement vrai, là. C'est vrai, malheureusement. Ouais, c'est vrai qu'à vouloir trop prendre, à trop vouloir défendre l'un en face de l'autre, je me retrouve à me mettre les deux à dos, et puis finalement, voilà, j'ai que des ennemis au bout d'un moment.
Les deux deviennent potes. Ouais,
c'est ça. Je me retrouve tout seul comme un con.
Les parents d'enfants qui se fâchent.
Mathieu est un supporter acharné de l'OM. Il pourrait être invité dans le carré VIP du Vélodrome, mais fidèle à sa jeunesse, eh bien, il préfère, lui, se mêler aux vrais supporters et pour pouvoir crier des insultes aux supporters et aux joueurs adverses.
La partie est vraie, hein, il est fan, mais il aimerait bien être invité.
Les insultes, après, il les met dans ses livres.
Ouais. La vérité, c'est que maintenant, je vais dans le truc, comme je vieillis, en fait, je vais dans le truc un peu VIP, tu sais, où là, je m'assois comme les vieux, en fait, et je m'assois et je pars 10 minutes avant la fin du match pour voir les embouteillages et tout. Mais c'est vrai que pendant des années, j'allais dans les virages et je criais, je hurlais, je mettais mon cerveau dans la voiture de mon père et je le récupérais en sortant. Voilà.
C'est drôle.
Donc oui, mais j'y vais souvent. Ouais.
Avec une moustache aussi, on aime
ça. Pareil, et en faisant l'amour. C'est compliqué. Hein,
c'est compliqué. Et le 23 juillet. Une dernière, non. Oh, une dernière sur Thomas, qui est un peu distrait. C'est vrai. Et quand il faisait des interviews, notamment de groupes de rock, il est arrivé plusieurs fois d'oublier de brancher le magnéto. Ouais. Et comme il ne prenait pas de notes, on ne sait pas si les interviews publiées et signées Thomas VDB sont vraies ou fausses, parce qu'il réinventait tout.
oubliez de déclencher le magnéto.
Oui, ouais, moi, je crois que c'est vrai. Possible.
Il sera votre fils spirituel, Patrice.
Alors, j'ai honte de dire que c'est vrai. Alors, c'est pas que j'ai oublié de déclencher le magnéto, c'est que ça m'est arrivé des fois de parler avec un chanteur américain dans le studio de qui j'étais à Seattle, et j'étais allé exprès pour ça. Et je vois mon magnéto qui enregistre au bout de trois quarts d'heure, et je sors de mon interview, et je sais pas pourquoi, je réécoute l'interview, et ça n'a pas du tout enregistré. Oh, ce qui fait que je suis là. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu me dire exactement? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je me souviens qu'à un moment, il m'a parlé de sa grand-mère. Bon, je vais dire, ma grand-mère, elle est gentille. Voilà, donc, grosso modo, tu réinventes un peu en essayant de te rapprocher de la vérité. Mais j'ai eu des moments de solitude.
Ah oui, c'est vrai. Une confidence de Kurt Cobain. Mmh. Voilà, ouais.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Nous retrouvons Mathieu Madénian et Thomas VDB. Alors, je vous propose un troisième extrait tout de suite.
Alors, dans les gens insupportables au restaurant, désormais, il y a d'abord ceux qui préfèrent photographier leur plat au lieu de le manger.
On a vraiment une lumière de merde hein, chez vous.
Ensuite, il y a ceux qui ont trop regardé Top Chef.
Non, mais alors là, franchement, c'est exceptionnel. Hein. On sent toutes les saveurs en bouche. Il y a de la texture, il y a du croquant. Et puis, on sent que ce plat a une histoire. Et ben moi, tu vois, ce plat, il me parle. C'est un très grand plat.
Non, mais c'est fini, oui, madame. Vous permettez? Ce plat, il me parle. Ça se peut pas. Ça peut pas parler, un plat. Vous pouvez pas juste dire miam miam, c'est bon.
Ce qui est insupportable aussi, ce sont ces nouveaux sommeliers qui te prennent un petit peu pour un con, quand même.
Alors là, comme vous devez le ressentir, on est plus sur du fruit rouge. Ouais, du raisin, quoi.
Moi, ce que je supporte pas non plus, c'est les gens qui ferment les yeux en buvant leur café. Non, excusez-moi, madame, ça se peut pas que c'est aussi bon. C'est un café, donc ça se peut pas. C'est juste de l'eau chaude avec un truc noir dedans. Donc ça pas, on va pas en faire des caisses. Vous allez pas chanter « Try to remember when life was so tender ».
Ah non mais ah oui et puis nous irons sur
sur du sur des arômes de toujours sur des arômes
ça vous plaît ça Joël?
J'adore moi c'est tout ce qui m'énerve tout le temps tout à goût de noisette aujourd'hui dès qu'un mec analyse un truc c'est un petit goût de noisette
on est bien d'accord que là-dessus c'était bien mieux avant
ils ont commencé fort hier soir les bruits au cinéma c'est vrai que ça aussi
les gens qui mangent au cinéma.
C'est et le pire, c'est pas les bruits, c'est ma lâcheté à moi. Mais là, je sais pas s'il y a je me retourne à peine, je fais mais jamais je me retourne. Maintenant, vous arrêtez, tu vois. Ça bouillonne en moi et je rentre chez moi et là, je hurle tout seul. C'est pour essayer de me venger d'un truc que j'ai pas assumé.
À côté, mais pas derrière.
Mais c'est exactement ça. C'est comme quand mes voisins font du bruit, tu sais. Je tourne chez moi, tu sais, je me fais dans ma tête, je dis tu vas arrêter. Et quand je les vois le lendemain, bonjour.
C'est ça. J'en ai marre. Qu'on est un peu lâche.
Ouais.
Alors, tous les deux, vous avez deux parcours assez différents. Mathieu, vous étiez un juriste originaire de Perpignan, et vous, Thomas, journaliste reconnu comme spécialiste de rock. Et quelque chose vous a poussé tous les deux vers la scène. Parce que je rappelle d'ailleurs qu'en dehors de W9, on peut vous voir tous les deux sur scène. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé tout d'un coup
Moi, à la fin de mes études, j'ai fait juste une année sabbatique pour venir m'amuser à Paris. Oui. Et cette année sabbatique, elle dure depuis 15 ans. En gros, c'est ça. Juste ça. J'ai eu beaucoup de chance, en fait. Voilà.
Et vous êtes toujours en état d'urgence
Ouais, je joue. Je suis en tournée actuellement. Bientôt, Dax, Montauban.
J'ai d'autres dates. Oui, moi,
fais-nous rêver.
Angers et Tours.
19 février à Saint-Étienne. 22 février à Angers. 23 février à Tours. 16 mars à Mont-de-Marsan.
Ouais, c'est ça. C'est marrant. Je fais des petits villages comme ça. C'est cool.
Un petit village, Tours, Angers, Mont-de-Marsan.
Non, mais c'est sympa, Mont-de-Marsan. La fois que j'ai joué...
Mais Tours aussi, Angers aussi.
Tours, c'est bien, ouais. Nous, tout est bien. Quand les salles sont remplies, tout est bien.
Et vous avez fait combien de mois à l'Apollo Théâtre? C'était énorme.
J'ai fait un an à l'Apollo, un an au Grand Point Virgule, et là, ça fait un an et demi. On finit la tournée fin juillet, je pense.
Et Thomas est actuellement sur la scène du Sentier des Halles. C'est rue d'Aboukir,
exactement, à Paris, tous les vendredis samedis.
Samedi à 20h avec son spectacle Bon Chien-Chien, qui est
très belle affiche.
Prolongée jusqu'à fin avril.
Extraordinaire, qui est vraiment très très marrant.
Et comment s'est fait la rencontre
Comme échangiste.
Mathieu et moi avions le même producteur, qui est Kader Aoun, qui nous développait de part et d'autre en solo, puisque, comme on disait à l'instant, Mathieu et moi avons chacun nos spectacles solo. Et puis, il a eu envie de nous mettre ensemble et de nous faire nous rencontrer. Moi, j'avais beaucoup d'expérience dans le théâtre de rue, parce que j'en ai fait beaucoup. Donc voilà, j'avais aussi mes personnages un peu en réserve. Et puis, l'idée a été d'abord d'initier une soirée qui s'appelait le cabaret Kamikaze, qu'on jouait à Paris, dans lequel on faisait venir justement des artistes de rue. L'idée était de pas faire venir des comédiens qu'on voit beaucoup à la télé et tout ça. C'était plutôt de faire venir des gens du cirque, des choses comme ça. Et Mathieu et moi étions les monsieur loyal de cette soirée. Et jusqu'à ce que, et de là, et s'est formé un petit peu le duo.
Le duo s'est formé.
Très bien.
Et bien, on va retrouver dans un instant l'actu, mais vu par Régis Maillot qui va nous interroger.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Nous sommes toujours avec Mathieu Madénian et Thomas VDB. Et Régis Maillot nous interroge sur l'actu.
L'interro Maillot.
Alors, première question, les amis, alléluia. Patrice Carmouche, c'est à vous de répondre. Un miracle a eu lieu, l'Église de France a reconnu un miracle. De quel miracle s'agit-il? Trois propositions. Première proposition, la convalescence miraculeuse d'un aveugle qui a retrouvé l'usage d'un œil après une visite chez l'ophtalmo de Lisieux. La guérison miraculeuse de sœur Bernadette Morlot, qui a retrouvé l'usage de ses jambes après une visite à Lourdes, ou l'érection miraculeuse du père Lassus, qui a retrouvé l'usage de sa teub après une visite au diocèse de Lyon.
Et c'est la sœur qui a retrouvé ses jambes.
Sœur Bernadette.
Ouais.
Sœur Bernadette, vous êtes certain?
Ah oui, sûr.
Bonne réponse.
Allez. Intervention de Bernadette Chirac.
Non, c'est un miracle retenu par l'Église. 10 ans de vérification,
quand on ne sait pas, c'est un miracle, en fait.
Exactement. C'est le principe, mais j'étais content. Deuxième question, chapitre Vive la technologie. Je vous présente MyRocket, qui est une nouvelle application qui vient de sortir. À quoi sert MyRocket, Stéphane Bern? Plusieurs propositions. C'est une appli en réalité augmentée qui permet de lutter contre la constipation. MyRocket, ça va de petits exercices de décontraction techniques dites intrusives. C'est une appli qui permet à des particuliers de participer à la création d'un programme spatial collaboratif. Vous devenez copropriétaire d'une fusée, une roquette. C'est une appli qui sert à envoyer des bombes, roquettes à distance. C'est un must-have en Syrie. Tous les gosses l'ont téléchargé sur leur smartphone. C'est le Pokémon Go des djihadistes, bref. Et où c'est une appli qui permet d'envoyer 8 candidatures spontanées à des employeurs et propulser leur profil.
Moi, je pense que c'est plutôt ça.
Vous êtes certain?
Ah oui, enfin, je crois, oui.
Bonne réponse, c'est pas mal. Ouais, ça a été lancé par une entreprise Picard et son but, c'est de propulser effectivement des candidatures et de les mettre sur orbite. À vous de répondre, Mathieu Madénian. Dans la série Aller plus haut, allons faire un tour à Dubaï. Vous connaissez Dubaï?
Ouais.
C'est sympathique, port de pêche. Oui, c'est ça, c'est sur la ligne 12. C'est un port de pêche du golfe Persique et, qui a fait du bon goût et la tradition, sa marque de fabrique. La ville de la démesure. Il faut dire, un chiotte à Dubaï, c'est un parking. Qu'est-ce qui vient d'ouvrir à Dubaï et qui est le plus haut du monde? Alors, c'est plusieurs propositions. Le minaret le plus haut du monde, avec ascenseur panoramique et enceinte Wi-Fi pour l'appel à la prière. Le plongeoir le plus haut du monde. Il fait tellement chaud que le temps que tu sautes, l'eau de la piscine s'est déjà évaporée d'ailleurs.
Il n'y a plus d'eau.
Ou l'hôtel le plus haut du monde, le Gevora Hotel.
Ça va être l'hôtel, non? Attends, c'est un piège.
Non, c'est l'hôtel.
Je sais pas.
C'est l'hôtel,
c'est le plongeon.
Le plongeoir.
Non, l'hôtel.
Il y a des limites quand même, le plongeoir.
Tu vois, je dis l'hôtel.
Il n'y a pas d'enjeu, hein, Mathieu.
Je sais, mais
c'est l'hôtel. C'est l'hôtel.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà. Non, il n'y a pas de piège.
Tu veux qu'on va lui prêter plus de.
Mais il y a plus dans ton jeu, moi.
356 mètres. C'est un mètre de plus que le précédent record. C'est-à-dire un lit en mezzanine, en fait, grosso modo.
Quand les ascenseurs
tombent en
panne. Voilà, c'est vrai que tu bats un record.
C'est vrai que quand l'ascenseur tombe en panne, c'est quoi?
Bah, t'as des promos sur les chambres au dernier étage.
Exactement. Thomas VDB, une invention qui va ravir, tiens, Stéphane Bern. Au Japon, des chercheurs viennent de découvrir une méthode pour faire pousser les cheveux de façon ultra rapide.
Ah oui?
Alors pour l'instant, c'est sur le dos d'une souris qu'ils l'ont testé. Alors le résultat est spectaculaire. La souris, c'est un oursin. Faut voir. C'est barbu comme Mathieu Madénian. Ah tu vois, c'est assez beau.
Avec une moustache.
Exactement. Comment ont-ils fait? Ils ont réussi à cultiver des follicules pileux. C'est ce petit réceptacle du derme, où le bulbe du cheveu prend naissance. Ils ont créé une pâte, une sorte d'enduit couleur qui sert de terreau sur lequel on fait pousser des cheveux, où ils ont créé une pilule à base d'hormones de croissance de femmes portugaises. C'est un petit cliché raciste.
Ouais, hein, c'est bon. Ça fait pas mal.
Je crois que c'est la une.
Je pense que c'est la une. Je vois pas ce que ça pourrait
exactement,
être.
Exactement, ouais.
Il y a trop de mots compliqués. Ouais.
Il y avait le mot follicule.
Vous n'auriez pas vu l'inventer follicule. Vous n'auriez pas inventé ça.
Non, je ne peux pas. Et c'est très avant-gardiste parce qu'on n'avait jamais réussi à faire à reconstituer des follicules pileux. Joël Gouron, on vous de répondre. On va parler de Jérôme Cahuzac. Vous connaissez le fisc fucker de Bercy. Oui. Qui comparait depuis ce lundi devant la cour d'appel et est condamné en décembre 2016 à 3 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité, pardonnez-moi. Pour quelle raison ? Plusieurs possibilités. Pour abus de bien social, pour désabus de bien socialiste, pour fraude fiscale et blanchiment, ou pour avoir conseillé à François Hollande de se faire teindre les cheveux.
Fraude fiscale.
Vous êtes sur le terrain ? Fraude fiscale et blanchiment, très bonne réponse.
Mais c'était un spécialiste des cheveux. Vous avez
Exactement, ouais. C'était petite transition, justement. 600 000 euros, je vous rappelle, qu'il avait dissimulé à l'étranger. Bon, bah, pour une fois qu'un socialiste avait réussi à réconcilier la gauche avec l'argent, on ne va pas lui en vouloir. Et enfin, une petite, dernière pour la route, toujours sur Cahuzac. Il affirme, sa défense, oui, sa défense a été assez étonnante. Il affirme que l'argent visé l'était en fait dans un but humanitaire et militant et devait participer à quoi ? Éric Dussard vaut de répondre au financement des activités politiques de Michel Rocard, à alimenter le fonds de soutien, le CASH, c'est le comité d'action des socialistes honteux, ou aider François Hollande à perdre du poids pendant sa campagne présidentielle de 2012.
Il a hésité entre la 3 et la 1, et il a choisi la 1 finalement.
Michel Rocard.
Ouais. Ouais. Il y avait comme quoi, même faire parler les morts, prouvé, il a hésité.
Merci beaucoup, Régis Daillon. On va retrouver Éric Dussard dans un court instant pour le Zapping Télé, nos invités.
Bonus, découvrez la nouvelle émission de RTL, confidentielle, avec Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, on se retrouve et c'est un plaisir dans ce nouveau numéro de Confidentiel sur RTL. Une heure au cours de laquelle on va sinuer ensemble dans les méandres d'une vie, une trajectoire qui, comme toutes les trajectoires, n'est jamais une ligne droite. À l'image de celle que je vous propose aujourd'hui, la gloire et le malheur, la lumière et l'ombre d'un homme gigantesque, un monstre, comme il se surnomme lui-même, l'acteur aux 200 films, aux 1000 rôles et aux 1000 vies, dans les pas d'un géant et de ses secrets, Confidentiel Gérard Depardieu, c'est tout de suite, et c'est sur RTL.
RTL. Confidentiel. Jean-Alphonse Richard.
Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu est né dans une maison où il n'a jamais vraiment habité, dont il s'est toujours enfui, mais qu'il n'a jamais quitté. Aujourd'hui encore, il lui arrive de rêver au numéro 39 de la rue du Maréchal Joffre, quartier de Lomelon à Châteauroux, où une petite porte en fer s'ouvre toujours sur un maigre jardinet, une façade grise et des souvenirs perdus. Gérard Depardieu a vu le jour ici le 27 décembre 1948. Et ses premiers pas, dans deux petites pièces étroites et sombres, ont décidé de sa destinée tout entière. Jamais une enfance aura à ce point dicté les gestes, les mots et les désirs d'un homme. La jeunesse de l'acteur, il le dit lui-même à qui veut l'entendre, fut formidable. Troisième enfant d'une famille qui en compte six, des pauvres de l'après-guerre, jamais un sou à la maison. Pas de misère noire, mais une existence de briques et de broc. René, le père, surnommé le Dédé, taulier formeur, pêcheur à la ligne et promeneur des bords de l'Indre. Un puits de silence et de timidité, une ombre muette qui a appris à ne jamais se faire remarquer, à se fondre dans le décor et à se réfugier dans l'alcool.
Alors, votre père était taulier, non pas gardien de la prison.
Et non pas communiste non plus, il vendait l'humanité. Mais il était compagnon du Tour de France. Et le bien décidé, c'est son nom de compagnon. Il s'appelait Berry, car il était Berrichon. Le bien décidé, c'est lui qui avait choisi ce nom. Et c'est le bien décidé, c'est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire.
Alice, la mère, surnommée la Lilette, un visage d'ange triste. Si lasse des grossesses à répétition qu'elle essaiera d'avorter de Gérard en s'infligeant des coups d'aiguille à tricoter. « Et dire que j'ai failli te tuer », lui répétera-t-elle mille fois. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me réveiller en sursaut pour me toucher le crâne, pour savoir s'il ne reste pas quelques cicatrices, raconte Depardieu. Des cicatrices de cette enfance qui ressemblent à des pages de Zola, Gérard Depardieu en garde plein. Mais pas celles que l'on croit, pas celles des coups qu'il n'a jamais reçus. Je n'ai jamais été ni jugé par mes parents, ni tenu, ni rien du tout. J'avais été aimé pour être libre, j'ai toujours été libre. La discipline, notion inconnue chez les Depardieu. Maison sans ordre, sans rituel, sans clé, sans horloge, sans verrou. La porte d'entrée donne directement sur l'aventure. Gérard ne fuguera jamais. Il ne fera que s'évader pour connaître le monde extérieur, fasciné par ces avions qu'il voit décoller d'Orly quand il rend visite ici à sa grand-mère, Dame Pipi à l'aéroport. « J'ai toujours voyagé depuis les chiottes d'Orly. Je voyais toutes les villes du monde défiler. Saïgon, Addis Abeba, Buenos Aires. Je me disais, un jour, j'irai là-bas, j'irai. » À 10 ans, il en paraît déjà 15. Il découche et personne ne lui dit rien. Commence à traîner dans les rues de Châteauroux. À 13 ans, il en fait 17. 1,75 m pour 70 kg. Il quitte l'école que, de toute façon, ses parents ne peuvent pas payer. Gérard a un blouson rouge, une gueule de petite frappe qui effraie les honnêtes gens et se débrouille. Des petits boulots, des petits larcins, des petites bagarres pour s'en sortir. Il a tout du voyou et malgré son jeune âge, il lui arrive de faire peur aux gendarmes. Il voyage sans billets, sans bagages, en se cachant dans des trains ou dans le car des supporters de la Berrichonne, l'équipe de foot de la ville qui va jouer à Monaco. C'est la première fois qu'il voit la mer. C'était tellement beau, pendant des mois ça m'a porté, se souvient-il. L'été suivant, il sera embauché comme plagiste au Cap d'Antibes. Personne ne s'interrogera vraiment sur l'âge exact de cet adolescent qui est déjà un homme. L'enfance de l'acteur n'est qu'une suite ininterrompue d'allées et venues, d'évasions, d'escapades. Un tournis sans barrière, sans limite. Mais cette totale liberté n'est qu'une illusion. Gérard peut certes aller partout, mais en réalité, il ne va nulle part. Gérard voit plein de monde, mais en définitive ne rencontre personne. C'est la première fracture de l'acteur, cette conscience aiguë d'être marginal et condamné à le rester. Qui pourrait s'intéresser à ce voyou sans foi ni loi, sans scrupule ni morale, qui ne peut que finir en prison. L'éclaircie vient de la base aérienne américaine installée à la Martinerie. Plus de 10 000 hommes dans ce camp de l'OTAN. Les jeeps, les cigarettes blondes, les chewing-gums, le bowling, le rock'n'roll. C'est un air d'Amérique que respire soudain Gérard Depardieu. Avec sa carrure, son sourire désarmant, sa blondeur, il ressemble à tous les GI de la base. Il ne parle pas un mot d'anglais, mais semble déjà s'exprimer comme un petit gars du Middle West. Il ne va pas avoir de mal à se faufiler dans ce sanctuaire protégé. Pour la première fois, on va l'accepter sans lui demander des comptes, le considérer sans le juger. Le camp est l'endroit où il trafique des cartouches de cigarettes, des bouteilles de bourbon et des chemisettes pour les revendre à prix d'or dans les hôtels de Châteauroux. Avec les Américains, l'argent coule à flot. Il en donne à sa mère et claque tout le reste. Mais la Martinerie n'est pas seulement un terrain de magouilles et de marché noir. C'est l'endroit où il apprend à parler anglais, où il voit Elvis Presley, en chair et en os, venu donner un concert où il découvre les films américains. C'est à peine croyable. Mais dans moins de 10 ans, le gamin perdu de Châteauroux qui mange du pop-corn en regardant Yul Brynner dans Les Sept Mercenaires tiendra la vedette dans Les Valseuses.
Cet extrait vous a plu? Alors retrouvez cette émission chaque samedi à 14h sur RTL ou abonnez-vous au podcast de Confidentiel.
À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec ce nouveau programme.
Et oui, Mathieu Madénion et Thomas VDB au bord de la crise de nerfs, c'est tous les soirs à 20h55 sur W9. Alors, je note, Mathieu, que ce n'est pas la première fois qu'on vous voit au bord de la crise de nerfs à la télévision. Ça avait déjà été le cas en 2011. Fort Boyard.
Ah oui.
Quand vous étiez retrouvé avec des blattes sur la tête.
Mais oui, mais oui.
Bon, alors, écoutez-moi bien. Certaines cartes... merde.
Allô, allô.
Qu'est-ce que c'est ça?
Ah, Mathieu.
Non, arrête, t'es comme putain.
Mathieu, vous êtes là.
Il y a des plates.
Là, Mathieu.
Écoute,
on parle. Mathieu. Alors, à l'oreille, on la met.
C'est quoi ça?
C'est quoi? Bah non, c'est à vous de trouver.
C'est des blagues. C'est un bon souvenir dans l'ensemble.
Ouais, oui, c'était marrant, mais tu perds, t'oublies la caméra en fait. T'as des blagues qui te tombent sur la tête.
Mais vous voulez pas convaincre Stéphane parce qu'il refuse de faire Fort Boyard?
Je refuse à cause de ça.
Ah, mais il passera un bon moment, dites-le.
Mais t'as raison, parce que c'est vraiment. T'es dans une espèce de cabine et t'as des mouches, t'as des blagues qui te tombent dessus.
Tête, ouais, c'est
et
horrible.
Tu peux pas les tuer.
Ah bah non, ça
parce
qu'elles
sont protégées. Donc normalement, t'as une blague, tu l'éclates. Donc là, t'es là, tu fais putain, t'as des blagues qui te montent sur dans le cou et tout. Et tu dois répondre à la question de l'autre, là, qui a perforé 25 ans. Et donc voilà, mais c'était marrant. Je le fais plus, là, c'est bon, je vais donner.
Stéphane est convaincu, il y va l'été prochain. On va passer maintenant à une autre pièce où les gens crient très très fort. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Fury Room?
Oui, c'est là où on casse tout
pour se
défouler.
Exactement, c'est de plus en plus à la mode, ça ouvre un peu partout dans les grandes villes. Fury Room, puisque vous payez votre entrée, après vous avez le droit de tout casser dans cette pièce. Explication dans le magazine de la santé.
Alors on est dans une Fury Room, c'est quoi un peu le concept?
Alors le concept, c'est un endroit où on vient pour tout casser, notamment des choses de la vie quotidienne comme des écrans d'ordinateur, des claviers, on va avoir de la vaisselle, des petits bibelots, enfin un petit peu de tout ce qui nous entoure dans la vie quotidienne.
Et à quoi ça sert?
À se défouler et à s'amuser.
Et quel est le profil de vos clients?
On va avoir les jeunes cadres, les couples aussi qui viennent et on va avoir aussi 80% de femmes.
C'est pas un peu violent quand même?
Non, pas du tout.
Pas du tout, t'as juste des gens qui deviennent complètement dingues.
Au bout du bout, là, en termes de concept.
C'est
de
ça, avant l'homicide,
en fait. Les gens cassent des objets en aucun sens.
Qu'est-ce que vous en pensez pour la Saint-Valentin? Aller en couple dans une Fury Room. Ça peut être une belle manière
de célébrer l'amour.
Ouais, péter la vaisselle de la belle-mère.
Si on refuse la société de consommation.
Ouais,
mais on paye son entrée pour aller casser des trucs.
En plus, c'est pas donné, je crois. C'est pas donné.
Ah bah non, parce qu'il faut payer tout ce qu'on casse.
C'est vraiment pas donné.
Bon, il y en a d'autres qui sont au bord de la crise de nerfs sur votre propre chaîne, Thomas et Mathieu. Ceux qui sont diffusés juste avant vous sur W9, les princes de l'amour. Alors, eux aussi, ils sont à cran.
Maintenant, si toi, tu t'en bats les reins, tu t'en bats les steaks. Je suis désolé, il n'y a pas de crise à faire. Là, au bout d'un moment, je veux bien être gentil, je veux bien faire du sociable, mais là, stop.
Je suis dans un stade où je suis saoulé, donc là, faut vraiment que je mette les points sur les T avec lui.
Points sur les T, oublie pas les barres sur les I quand même.
C'est pour ça que nous, après ça, on peut faire ce qu'on veut.
Oui,
tu vois, c'est open bar. En fait.
Mais si vous gardez le même public, je suis pas sûr qu'ils comprennent toutes vos vannes. Mais ça, on verra. Mais...
Forcément, on passe pour Bernard Pivot après ça.
Vous êtes le programme culturel.
Non, mais c'est vrai que c'est bizarre.
Mais c'est incroyable quand même qu'ils connaissent pas la vraie expression avec cette histoire de I là. Elle est pourtant simple. Je vais demander à ce couple très zen, lui aussi, vu dans Confessions Intimes, de bien vouloir nous rappeler cette expression. On doit dire ceci.
Là, tu vas arrêter 2 minutes la vaisselle et je vais te faire montrer. Viens, je vais te faire montrer.
Ton balai, c'est mort.
Je vais te faire montrer. Maintenant, moi, je vais te mettre les 4 points sur les.
Les 4 points sur les, je suis pas ta gamine, moi.
Ça doit lui en prendre du temps de mettre 4 points sur chaque i quand même. Hein. Je
vais te faire montrer.
Oui, alors soyez rassurés. Ouais, il va nous faire montrer. Hein, il va nous faire montrer comment on met 4 points sur les i. Et après, ça ira beaucoup mieux.
Je vais te remontrer. C'est incroyable, quand même.
On enchaîne les verbes, en fait. Ouais.
C'est marrant. Moi, je pensais que j'avais des problèmes de conjugaison. Là, je suis rassuré.
Mais c'est fait pour ça, ces émissions. C'est pour rassurer les gens.
Oui, mais hier, on s'est intéressé aux maths. Maintenant, on va réformer leur syntaxe.
C'est déjà en cours.
Elles ont décidément un problème.
Ah oui, les reines du shopping de Christina Cordula ont décidément un gros problème avec les canards. Vous vous souvenez de ceci?
Ouh, notre fashionista n'a pas l'air de voir cette robe d'un très bon œil, elle, par contre.
Elle casse pas 3 briques à un canard.
Pardon?
Elle casse pas 3 briques à un canard.
Vous imaginez pour celle-là qu'il y a
peut-être capable de la faire, celle-là. Ouais. Dans le fou.
Oui.
Bah, c'est vrai qu'on en rigole, là, quand même. C'est vrai que tu t'énerves dans le programme avec ton malgré.
Oui, il y a plusieurs choses. Ouais. Mais est-ce que vous imaginez le pauvre canard qui a des briques à la place des pattes qui flotte pas longtemps?
C'est une expression tiroir. Voilà. L'ont rajouté, une à l'autre.
Il y a une forme de poésie.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ces tiroirs? En l'espèce, il n'y a rien de.
C'est comme la goutte d'eau qui aime le feu aux poudres.
Je vais vous inscrire au rein du shopping, Patrice Carmos. Donc, ça, c'était il y a quelques semaines. Mais là, une autre candidate vient de nous faire un autre gros couac en parlant de canard. Attention, vous allez entendre une très très grosse révélation dans ce qui suit.
Et là, cet assemblage, il vous inspire une expression de grand-mère?
Ça casse pas 3 pattes à un canard?
Pardon, Mélanie, vous dites?
Moi, je dis 4. Ouais. Bah oui, un canard, ça a 4 pattes.
Bien sûr. bien sûr. Et le mouton en a 5. Elle doit habiter à Tchernobyl, elle, je pense. Hein. Elle est là-bas que l'on voit des canards à 4 pattes.
Non, oui.
Ou alors des canards à 4 pattes, mais c'est pas dans le même sens. Donc, reine du shopping. À quoi avez-vous pensé, Stéphane?
Non, mais j'avais l'image de cette femme qui pensait à son canard à 4 pattes.
Oui, peut-être qu'elle était à 4 pattes en pensant au canard, mais ça, on ne sait pas trop. Hein. Reine du shopping, mais pas reine des animaux. Pas reine non plus de la conjugaison, manifestement.
Et pas le temps pour aller réfléchir en cabine.
Plouf, plouf, ça sera toi que je prendrai.
Je prendrai le canard à 4 pattes et je vais te faire montrer.
Alors qu'on dit je prendrai.
Vous écorchez mes oreilles. Hein.
Le pire, c'est que ça va nous rester en tête toutes ces fautes.
Oui.
Après,
c'est
savez.
Horrible. C'est terrible. Allez, on termine avec un roi du look cette fois.
Ah oui, si vous avez envie de voir Stéphane Bern dans des tenues hyper fashion, un conseil ce soir, regardez France 2. Pas parce qu'il y a une spéciale Mardi Gras, mais parce que Stéphane va nous présenter l'histoire des restaurants à travers les siècles en adoptant à chaque fois le look de l'époque. Mon coup de cœur, Stéphane, il est pour votre look Moyen-Âge. Hein.
Ah oui ?
Ah, il est magnifique. Je dois dire, même si le look guinguette vous va bien aussi, ce petit canotier, là, vous allez voir, Stéphane est très bien habillé. Puis au-delà de ça, on va apprendre plein de choses, notamment sur ce Moyen-Âge, époque où aller au restaurant était un vrai moment de détente, puisqu'on risquait à tout moment de finir soi-même sur la broche ou d'être empoisonné. C'est ce que vous expliquerez notamment ce soir avec cette bien belle histoire de la salière.
Ouais, je veux bien du sel. Il y a du sel ou pas ?
Vous n'avez pas votre salière ?
Non. Parce que vous avez votre salière ?
Bah évidemment, tout le monde a sa salière. On amenait son coutelas ou son couteau et on amenait son sel. Pourquoi ? Ça, c'est une superstition qui vient du fait que on venait avec sa salière pour éviter d'être empoisonné. On mettait un petit peu de poison dans votre salière, ni vu ni connu, vous saliez votre plat. Et vous mourriez dans de bonnes conditions.
Je sens une telle délectation quand vous dites ça. C'est pour ça que vous ne déjeunez jamais avec lui.
C'est comme quand vous êtes chine, en fait.
Oui, c'est fou ce qu'on aimait empoisonner.
C'était courant à l'époque.
Pendant l'extrait, Joël opinait du chef parce qu'elle a bien connu cette époque.
Ah oui, bien sûr.
Mais non, mais on croit toujours que c'est une superstition religieuse de ne pas se passer le sel de la main à la main. Voilà, donc maintenant, on peut se passer le sel de la main à la main sans aucun problème.
La fabuleuse histoire du restaurant, c'est ce soir à 21h sur France 2. Regardez. Écoutez ce qui va être dit et regardez les tenues de Stéphane, s'il vous plaît.
Merci, oui, merci beaucoup. Et bien, rendez-vous ce soir.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Mathieu Madénian et Thomas Bédébé. Alors, ils sont au bord de la crise de nerfs.
Ça se voit.
Je vais vous citer des duos d'humoristes, un peu comme vous. Oui. Vous nous dites si vous vous sentez proche ou pas proche.
Ah, c'est bon ça.
Alors, vous dites OK. Délation. Vous dites OK si vous êtes proche. Okay. Vous dites KO si vous êtes pas proche.
Ah oui, non, mais il n'y a pas un moyen
d'accord. Vous allez vous fâcher avec tout le monde. Allons-y.
Alors, les Baudins.
OK. Je connais pas. Je connais pas. J'ai pas trop vu ce qu'il faisait. Mais je sais que c'est le duo c'est très comique. Ils vendent le plus de billets en France.
C'est incroyable.
Ils sont très.
On a les émissions. Ils sont très drôles.
Il faut une ferme sur.
Mais c'est ça.
Chevalier Las Palès.
Ah moi ok. Enfin moi j'aime bien.
Bah ouais, je dois dire ok quand même. C'est rigolo. Chevalier Las Palès. Pierre Dac et Francis Blanche. Joël veut dire ok.
Je connais pas assez pour me prononcer.
En plus. Là ça va être dur maintenant.
Il n'y a pas de nouveau spectacle attendu.
C'est assez proche de leur.
Oui, bien sûr.
Je sais que je vous fais de la peine.
Non, mais je sais.
Qu'ils sont morts.
Ça va être tout simplement, puisqu'ils sont morts, je veux dire KO.
Vous êtes un courageux, vous.
Mais finalement.
C'est proche de vous.
Oui, Blanche. Il y avait un côté un peu surréaliste de temps en temps, tu as, Thomas.
Omar et Fred.
Ok.
Élie et Dieudonné.
Le duo était incroyable.
Les vampes.
KO. Non, parce qu'on se ressemble.
Ça vous parle pas.
C'est pas grave.
Vous avez vu les pulls.
Ok.
Vous avez vu, je vous ai pas mis trop de vivants.
Non.
Du coup, ça vous a vu de vous fâcher.
Pas trop de relou, surtout.
Ça vous a vu de vous fâcher avec la terre entière. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser entre les griffes de Patrice Carmouche, parce que c'est le moment du quiz musical. Et je vous rappelle qu'il y a un séjour à Orcières-Merlette à gagner au club Bellambra, le rock blanc avec
Remontée
mécanique incluse, évidemment. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors Patrice, nous jouons, étrangement, vous avez vu, dès qu'on me propose des cadeaux avec du ski, c'est deux garçons qui sont...
Regarde, c'était des filles.
Ah oui.
Alors moi, ce duo me plaît de comique.
Ils sont bien.
Ok. Vous jouez les deux. Là, vous jouez pour Pierre.
Tout est écrit.
Et moi, je joue pour Anthony.
Anthony. Et ce sont donc des duos de garçons. Hein. Il faut reconnaître qui sont ces duos.
Et c'est chacun un tour de rôle. Hein.
Ah, ça veut dire.
Vous avez vos points. Vous deux. Et vous, Stéphane.
Ok.
J'ai peur que Thomas soit très.
Thomas, il est super fort.
Calmez-vous. Allez, on y va.
Laisse-moi.
Non,
c'est Régis en Joker, hein.
Mais ça parle.
C'est pas Daft Punk. Non.
Moi je sais. Pas Daft Punk.
R.
Oui.
C'est R.
Ah c'est R.
C'est R.
R. Nicolas Godin, bien sûr.
Eh oui.
Ouais, j'ai pas reconnu. On a perdu là.
Il y a pas. Il parle ou il chante pas.
Si ça y est, c'est fait.
Ah, ça dépend des morceaux.
Ah, c'est relativement peu, mais.
Bon. Alors. Stéphane, alors, c'est pas tout à fait la même époque.
C'est pas R, c'est sûr c'est pas R.
Si vous en trouvez qu'un des deux, c'est bien.
Ouais. Moi je l'ai.
Bourville, là,
non.
Il est peut-être arménien aussi.
Ah non.
Déception. Rien n'est au duc ici, monsieur, rien n'est.
Ah, ça c'est Charles Trenet.
Oui, absolument.
Charles Trenet et Johnny S, c'était ses tout débuts. Ils étaient en duo au début.
Voilà. Donc Charles Trenet, j'ai une bonne réponse.
Un partout. Vas-y.
Alors, à vous deux.
Ah, ça c'est Daft Punk.
Bah non, oui. Daft Punk, ça. Daft Punk, oui. Ouais.
Ça oh là là, il connaît pas. J'ai doublé Thomas VDB sur Daft Punk.
En fait, il est pas très bon, Thomas.
Vas-y,
arrive.
C'est pas hyper rock ce que vous me mettez là.
Non.
Mais il a quand même fait un spectacle qui s'appelle Thomas VDB chante Daft Punk. Il connaît pas Daft Punk.
Mais pas tous les morceaux.
C'est ça.
Celui-là, c'est juste le plus connu. Stéphane. Simon et Garfunkel.
Voilà, bravo.
Et non pas Simon et Edgar Funkel. Ouais.
Joe Dassin
est parce que le morceau le plus connu, c'est Mrs. Robinson, dont on va parler peut-être avec Anne Pario.
Ah oui.
Oui, parce qu'elle joue dans un. On parlera avec elle de ce qu'on veut.
De ce qu'on veut.
Thomas.
Les Blues Brothers.
Ah bah c'est bon.
Ah ouais, ça si.
Donc Bellucci et
Dan Aykroyd.
Dan Aykroyd. Ouais.
Bravo. Bravo. Quand même.
Ça le fait, ça.
3-2.
3-2.
3-2. Stéphane, donc.
Ben ça c'est FGM.
Oui, voilà.
Benz.
Supreme NTM, très bien.
Oh, Supreme, ouais.
Ouais, pas de soucis.
3 points. Star et Cool Chain.
Oui. Ouais.
Vous allez le dire, Stéphane.
Mathieu et Thomas. You be. Darmon.
Et Shabba.
Ouais.
La karaoke. Hein.
C'est de la peur, ouais.
Faisait tous comme moi.
Stéphane. Ignorant le passé,
conjuguant au futur. Ah ça ouais, il y a un Arménien là.
Oui. Il y a un Arménien et un autre.
Et un.
Il y a Patoche.
Charles Aznavour.
Et un Sefarad.
Écoutez bien.
Ruel, non.
Ah là c'est Aznavour.
J'ai figé mes sourires.
Patrick Bruel.
Oui, absolument.
Exact. Hier encore par Bruel et Aznavour.
C'est beau, cette chanson. J'adore,
c'est magnifique chanson.
C'est une de mes chansons préférées, Hier encore.
Hier encore, Joël aussi. On avait 20 ans. Hein.
Ça me fait pleurer. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est une chanson qui fait pleurer.
C'est bon. Mathieu et Thomas.
On est à 4-4.
Queen et David Bowie.
Wow. Oui. Ah,
là, on est sur 61.
Là, on est dans son truc.
5-4.
C'est bon ça.
C'est bien, ouais. Under pressure. Stéphane.
Très content quand tu seras mort.
Ah, oui. Serge Gainsbourg.
Oui.
Et avec
Schmoll.
Oui.
Et il dit. Quand tu
seras mort. Et on va l'entendre. Le A. Tu ne fais
rien pour attendre. Eddie
Mitchell.
Oui.
Ouais. Mais ouais. Je suis content d'avoir
vieux chavon. Ah bon, écoutez.
Bonne chaussure.
Voilà.
Eddy qui a participé à un de nos messages. Eddy Mitchell, ah oui. Il est venu sur un de nos messages.
Ah,
ouais, c'est assez marrant.
Alors, 5, Mathieu 5. Et Thomas, ça c'est pour les gens qui aiment les chapeaux. Quoi.
Didier Barbe-Olivia et Félix Gray.
Ce
coming out de Mathieu Madénian. Oui, je crois que
c'est inconnu pour lui.
J'étais presque fier de ne pas connaître ça.
Je l'ai vu, le franquier. C'est pas ma faute.
Allez, Stéphane, c'est une très très jolie chanson. Tiens.
Les espoirs de nos ors n'avaient pas dépassé Saint-Maur. Moi, au moins, je vois tous les pays dans les yeux de mes amours.
Florent Pagny.
Non, non.
Oui, Florent Pagny.
Et
Gérard de Normand.
Oui, c'est une chanson de Gérard de Normand.
Absolument.
Bravo.
Bravo, c'est une magnifique chanson.
Ils l'ont chanté qu'une fois. Hein.
Alors, non, c'était un disque de duo avec de chansons de Léon Normand. On va faire des partages. Alors, là, faites très attention, soyez concentrés.
C'est
parce que c'est plus rapide entre vous et Stéphane.
Johnny Hallyday et Carmel. Non ?
Non, non.
Non.
J'ai dit Johnny avant.
Oui, Johnny, c'est bon.
Oh, il y en a un autre.
Vous l'avez dit ensemble.
À force de pourrir la terre comme
ça, c'est toujours.
Ça, c'est un sosie qui chante, non?
Mais à midi 42, c'est on
Michel.
A la voix.
Ouais.
L'autre.
Brisant les murs du sang.
Bon, bah, on va accorder Johnny parce que.
Bah, non, attendez.
On
va attendre le deuxième.
Attends, on va attendre.
Eddie Mitchell.
Ouais, Eddie Mitchell. Johnny et Mitchell, ouais.
Bravo. Ouais, c'est Stéphane.
Alors, qui a gagné?
Mais ça, c'est Anthony qui part au ski. Alors, Sierre Merlette pour 4 personnes pendant une semaine. Merci les garçons, merci
de l'accueil.
Mathieu Madénian et Thomas VDB au bord de la crise de nerfs sur W9 à 20h55.
Ouais,
c'est
entre 20h55 et 21h. Donc,
bah, faut pas se rater, ça dure 3 minutes.
Ouais, voilà.
Donc, faut pas se louper. Hein.
Exactement.
Voilà, merci à vous. Demain, nous serons en compagnie de Christian Clavier pour parler de Spirou dans La Bonne Heure. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.